vais laisser la parole à Antoine Payen de la Garandrie, junior, qui va nous proposer un retour historique sur la procession. Donc Antoine, je te donne la parole.
J'aime bien le côté junior, JR, ça m'appelle Dallas. Alors, rebonjour à tous, à toutes et à tous. Donc, mon intervention a pour titre l'introspection, retour sur une histoire. Je dois apporter une petite précision préliminaire par rapport à ce qui est affiché. Une anecdote qui va peut-être illustrer un peu nos propos, puisqu'on parle de l'introspection dans ce colloque, mais dans une société hyper connectée, donc la question numérique est aussi au cœur de nos réflexions. J'ai été récemment victime d'un problème informatique qui m'a fait perdre une partie des choses que je suis une fausse manip, de ce que j'avais préparé pour cette conférence, en particulier PowerPoint. J'ai appliqué un conseil de Rudyard Kipling, si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir. Et donc j'ai commencé à reconstruire le PowerPoint, mais j'ai là été pris par des contingences temporelles et j'ai pas pu le finaliser. J'ai hésité donc à le projeter parce que y a un petit décalage. Et puis finalement je me suis laissé dire que pour ceux d'entre nous qui aiment bien avoir parfois des supports visuels pour accompagner leurs évocations, ça pourrait être intéressant. Mais donc du coup, le PowerPoint apparaîtra de manière un peu désordonnée. Vous avez déjà une belle citation de Condillac pour commencer. Alors, donc comme en beaucoup de domaines, il est difficile d'assigner une origine stricte aux phénomènes et aux syntagmes que nous employons. Et quand on s'attache à décrire l'origine d'un terme et des pratiques que nous désignons sur ce terme, il est parfois intéressant d'évoquer l'arrière-fond culturel sur lequel ces pratiques s'édifient et leur lien de nécessité avec ce background. Je parle évidemment de l'introspection. Les pratiques elles-mêmes sont difficiles parfois à situer dans leur origine stricte. J'ai récemment bien été en peine de fournir une réponse à l'un de mes élèves à la question « Monsieur, quel est le premier roman de l'histoire de la littérature ?» Alors l'historiographie officielle, évidemment, attribue une date et un titre, mais quid d'autres productions qui ont pu les précéder, les annoncer, voire les influencer? Pour revenir dans notre sujet, quiconque parlera d'introspection sera probablement amené à considérer le chef-d'œuvre du genre que représentent les livres 10 et 11 des Confessions de Saint-Augustin, nous sommes dans l'Antiquité latine. L'un consacré à l'analyse en première personne de la mémoire, l'autre consacré à l'analyse du temps. On rappellera d'ailleurs que c'est à ce texte qu'un Husserl se référera dès l'ouverture de ses leçons sur la phénoménologie de la conscience intime du temps, faisant ainsi un bond de plus de 1500 ans en arrière, et prouvant ainsi l'unité de cet arrière-fond culturel. Pourquoi donc ne pas faire débuter notre histoire de l'introspection à ce seuil, celui de l'émergence du sujet, de la conscience et de l'intériorité qui structure notre paradigme culturel? Alors ce fut le projet, d'un Charles Taylor, dans un énorme ouvrage, Les sources du moi, La formation de l'identité moderne, qui date de 1989, donc ouvrage absolument passionnant, il ne sera pas question de l'éplucher évidemment, mais... on peut s'appuyer sur ce type de production pour retrouver, approfondir peut-être ce qui sera dit. Dans cet ouvrage, il cherche à établir une archéologie, je cite, « de l'intériorité moderne, le sentiment que nous avons de nous-mêmes en tant qu'êtres dotés de profondeur intérieure, et la notion qui s'y rattache, et selon laquelle nous sommes des « moi », entre guillemets. J'ai tenté de décrire le premier aspect, de Saint-Augustin à Descartes et Montaigne, puis jusqu'à nos jours, fin de citation, c'est à la page 10. Donc l'introspection, les pratiques d'introspection tirent évidemment leur sens de cet héritage, d'une intériorité à explorer, et qui constitue, d'après notre auteur, l'un des fondements de notre héritage européen, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Hans-Georg Gadamer, qui lui-même est revenu, dans une autre dimension bien entendu, sur cet héritage. Je voudrais en particulier évoquer, puisqu'il est question d'introspection, commencer par déblayer peut-être déblayer un peu le terrain. On entend souvent parler, quand été en contact avec des personnes qui pratiquaient les philosophies indiennes, qui pratiquaient la méditation notamment, et puis qui, pour qualifier ces pratiques, parlaient d'introspection. En réalité, il faut rappeler que les philosophies indiennes sont des pensées asubjectives, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de subjectivité dans la pensée indienne, donc pas d'intériorité à explorer, ce qui ne retire évidemment rien à la pertinence et à l'intérêt de ces philosophies pour lesquelles nous éprouvons à titre personnel un grand intérêt. Mais je crois qu'il faut bien resituer la pratique de l'introspection dans ce cadre. C'est donc toute cette filiation qu'il faudrait faire réémerger pour avoir un aperçu complet et précis et tout l'arrière-fond culturel sur lequel nous nous appuyons. Il faudrait également évoquer tout ce que la tradition a pu donner dans les arts et les lettres. Je pourrais citer au hasard toute la littérature du monologue intérieur, par laquelle la pensée s'extériorise ou s'explicite, ou un chef-d'œuvre d'introspection qui a été cité tout à l'heure et que représenterait le fameux épisode de la Madeleine de Proust. Il y a beaucoup de choses très intéressantes à tirer. Nous devrons nous concentrer ici sur ce qui nous intéresse en propre, à savoir l'introspection méthodique et sa filiation utilisée dans un cadre expérimental. Je précise que André Lalande, dans son vocabulaire technique et critique de la philosophie, en dessous de l'acception générale du terme introspection, réserve un encart spécial pour cette introspection méthodique. Donc, un arrière-fond culturel dont on pourrait suivre la filiation, et Charles Taylor nous a donné quelques indications, on pourrait passer par Luther, par Montaigne, voir un peu comment cette intériorité se modélise, comment elle se pense, mais c'est finalement au XVIIe siècle que nous situerons notre point de départ, c'est-à-dire au seuil de la modernité à la fois philosophique et scientifique, avec Descartes, dont le récit du cogito nous livre une ébauche, on pourrait dire une ébauche, d'expérience introspective en première personne, qui intéressera en particulier beaucoup Husserl. Pourquoi à ce stade? Parce que c'est à partir de ce stade que cette conscience, cette intériorité à explorer devient véritablement une conscience psychologique. Jusqu'à présent, et Hannah Arendt, dans son essai sur l'amour chez Saint-Augustin, le concept de l'amour chez Saint-Augustin, redit bien ce qu'a pu dire Charles Taylor, mais elle précise bien que cette conscience, cette intériorité ne sont pas encore des consciences psychologiques. Alors c'est à cette époque que l'intériorité, je reviens donc au XVIIe, c'est à cette époque que l'intériorité réflexive commence à être prise comme point de départ de la connaissance, de la pensée, voire comme possible fondement ultime d'une science de l'homme. Toutefois, ce n'est pas à Descartes que revient ce mérite, mais davantage aux « grands cartésiens », entre guillemets, on a pu nommer les contemporains de Descartes, ceux qui l'ont immédiatement suivi et qui sont entrés en dialogue avec lui, et par conséquent à la philosophie qu'il a immédiatement suivie. Le mouvement qui suivra pour l'exploration de l'intériorité consistera en particulier en une réduction du dualisme de l'âme et du corps qui, d'après ses penseurs, reste l'aporie principale de l'auteur du Cogito. Avec les empiristes et les sensualistes, tels que Hume et Condillac, donc une citation de Condillac, je rappelle que dans son traité des sensations nous livre la fiction de la statue, et il nous livre dans cette fiction de la statue une passionnante phénoménologie de l'émergence de la conscience à partir des sens. C'est donc à partir de cette période que d'importantes questions se trouvent portées dans le sillon du cartésianisme, en particulier sur la question de la genèse des idées. Sans que ces auteurs n'aient pu, mais ça on va le voir progressivement, pu proposer des débouchés satisfaisants. Le développement contemporain de la physique, de la biologie et de la médecine crée à cette époque, d'autre part, le rêve d'une science de l'homme qui aboutira à la création de l'école idéologique française sous la houlette d'un des stupes de Tracy. J'y reviendrai dans un instant. Pour comprendre l'esprit du siècle, on peut se référer aux sociétés savantes de l'époque dont l'Institut de France est un des représentants. L'intitulé de ces différentes sections d'études, annonce tout un programme. Il s'agit de rendre les connaissances de l'homme aussi scientifiques que celles de la nature, reconnaissant précisément dans la figure de Condillac celui du précurseur de l'étude scientifique de l'esprit humain. Les questions posées par l'Institut s'inscrivent dans la perspective condillacienne, c'est-à-dire sensualiste, c'est-à-dire je n'ai pas précisé de quoi il s'agissait, mais empirisme sensualiste, je résume rapidement, les idées viennent des sens, hein, les idées viennent des impressions sensibles, tout en refusant le principe cartésien des idées innées. On dérive donc progressivement vers la prise en compte de l'origine et de la génération des idées ou états de conscience. Le terme apparaît bien chez un des studs de Trécy, les idées ou états de conscience. Condillac avait proposé le nom de psychologie, et l'on voit là combien la psychologie naissante est d'emblée conçue comme analyse de la conscience et de ses déterminations. La psychologie naissante, d'emblée conçue comme analyse de la conscience et de ses déterminations. Les études de Trécy se méfient toutefois du terme psychologie en raison précisément de la tentation substantialiste qui lui est inhérente étant combattue chez Descartes. Il approfondit alors les analyses du traité des sensations, en particulier les sensations liées à la motricité, puis développe un vaste champ de recherche sur les sensations internes éprouvées dans l'épaisseur de la conscience. C'est dans cette ambiance de sens, si on peut dire, que naîtra le sujet de dissertation qui fut la genèse des recherches d'un auteur important dont on va parler à présent. Il s'appelle Maine de Biran. Alors Maine de Biran, donc 1766-1824, né à Bergerac, donc philosophe périgourdin, est relativement peu de nos jours étudié dans les universités. Il fait l'objet de travaux marginaux, s'inscrivant très souvent dans une perspective très spécifique. Il bénéficie notamment d'un regain d'intérêt chez les phénoménologues. Il n'a donc pas connu la postérité immédiate qui lui était probablement due, et pour cause, il n'est pas l'homme des grandes synthèses et des systèmes. Il reste proche de l'expérience. De fait, et malgré les efforts pour dégager un vocabulaire de Maine de Biran, le dégagement conceptuel est faible en comparaison avec les grands penseurs plus officiellement reconnus de son temps. Je rappelle qu'un Gilles Deleuze disait qu'un philosophe, c'était quelqu'un qui créait des concepts. Je résume rapidement, mais la marque de fabrique du philosophe, c'est qu'il est capable de créer des concepts. La Maine de Biran, c'est des concepts qui sont très empiriques, qui sont intéressants parce que, justement, ils relèvent de l'expérience, mais il n'y a pas une synthèse qui se dégage, ni même un système. Nous pourrions considérer, toujours avec les mêmes réserves déjà annoncées, quant à l'instanciation d'un commencement strict, le considérer comme le fondateur de l'introspection scientifique au sens moderne. Alors comment Maine de Biran en vient à prendre en considération la vie intérieure? C'est ce qui va nous intéresser maintenant. Ses intuitions viennent d'un prolongement des recherches de Condillac relatives à la conscience de l'effort. C'est à travers l'effort pour produire un acte que nous avons accès à la conscience du moi. Je cite « Or, qu'y a-t-il de plus certain ?» de plus évident pour moi que le sentiment intérieur de mon vouloir, de mon effort actuel, comme produisant certains modes ou changements que je m'approprie comme des effets dont je suis cause. Qu'y a-t-il au contraire de plus obscur, de plus incertain que ce jeu d'esprit, ces mouvements vibratoires de nerfs que mon imagination se figure comme étant les conditions organiques nécessaires des mouvements et des actes libres dont je dispose et que je sens être tout à fait en mon pouvoir. Je trouve ce texte extrêmement et étonnamment moderne. Ce que Maine de Biran nomme le fait primitif et le sentiment immédiat de l'effort, c'est la source de la causalité, non pas comme donnée physique, mais comme véritable sentiment intérieur, laquelle donc n'est pas non plus issue d'une projection physicaliste, sur le modèle des sciences physiques, mais le fait d'une véritable expérience intérieure. Comme le dit Henri Gouillet, l'un de ses spécialistes et commentateurs, à qui est dédié d'ailleurs Défense et illustration d'introspection, Henri Gouillet, je cite, donc c'est un petit ouvrage, un petit opuscule sur Maine de Biran, « Dans l'expérience la plus banale de l'effort, en tant qu'il est conscient de prendre l'initiative, le sujet se perçoit comme un « dedans » non figuratif, et l'auteur met « dedans » en italique. Un « dedans » non figuratif et non figurable. Il ajoute « Il y a une étendue intérieure où se diffusent des impressions de bien-être, de malaise, où se localisent les schèmes moteurs de mon activité volontaire. On voit donc bien comment la vie intérieure, en vient à être de plus en plus prise en compte et thématisée chez cet auteur, à travers la porte de la conscience de l'effort volontaire. La porte est donc à présent ouverte à la prise en compte des déterminations qui animent l'intériorité de ma conscience. Donc, je rappellerai l'exemple de la causalité. Selon lui, la causalité est un fait de l'expérience intime dont nous avons une intuition immédiate. Le penseur avance là, d'ailleurs, sur un terrain étonnamment kantien, enfin, il était contemporain de Kant, et un de ses commentateurs, Bruce Begoe, n'hésite pas à parler d'illusion transcendantale du moi pour qualifier cette projection de l'expérience interne et intérieure de la causalité sur les phénomènes extérieurs. On aura noté au passage qu'une subtile phénoménologie s'y esquisse également. Ben de Biran a commencé à tenir de manière quotidienne un journal dans lequel il note les événements de la journée. Il y a tout d'abord une dimension d'examen de conscience intime dans ce travail, y compris de conscience morale. Et au début, les notes qui remplissent ce journal relèvent de ce que Thierry avait pu appeler tout à l'heure une introspection très empirique. Aujourd'hui, je me sens comme ceci, je constate que l'atmosphère est comme cela, j'ai des telles ou telles impressions, donc nous accédons à une couche assez superficielle de la conscience. Mais progressivement, toute une conversion du regard vers l'intérieur va se faire jour. Comme le redit Henri Gouillet, page 96 du livre cité, tout ce qui vient de l'extérieur subit une réfraction dans ce milieu continuellement modifié au gré des influences extérieures. La vie du moi se joue sur un fond immuable d'impressions changeantes. L'observation continuelle de soi fait donc converger toute l'attitude vers l'intériorité comme objet en soi. La perception immédiate est un des termes de c'est un ouvrage de Maine de Biran, de la perception immédiate, que nous avons de nous-mêmes se renforce d'une aperception redoublée qui se confond avec la conscience réflexive stricto sensu. Il ne s'agit pas, ou il s'agit plus exactement de moins en moins, d'une activité passive de contemplation de sa vie intérieure, même si une telle activité peut au demeurant représenter une source d'intérêt, voire de plaisir. Rêvasser, passer en revue les images du passé, observer l'enchaînement de nos idées un peu à la façon du chevalier Dupin dans le double assassinat dans la rue Morgue d'Edgar Poe. Il est possible, en plus, de donner consistance à toute cette vie intérieure, d'en dégager des lois d'organisation remontant jusqu'au centre de nos décisions conscientes par une étude méthodique et qui se veut scientifique de soi. La conscience devient alors objet de connaissance en soi et non pas simple moyen, et l'accès à cette connaissance nous est donné délivré par l'introspection. Ce sera là également la limite et la fin du développement de son œuvre. Après avoir ouvert un champ de recherche considérable vers le dégagement des lois d'organisation du psychisme, Maine de Biran, au terme d'une ultime conversion, pour reprendre un titre du même Gouillet, les conversions de Maine de Biran, Maine de Biran donc dissout la fine fleur de ses intuitions dans la métaphysique. Aspirant à la mystique dans la dernière partie de son œuvre, il quitte le terrain proprement expérimental, du moins c'est le reproche qui lui sera fait par un certain nombre de penseurs, pour s'aventurer dans la théologie. La régression, si je peux faire ce parallèle avec Aristote, la régression de cause en cause le conduit à considérer in fine le Dieu intime qui nous anime du dedans. Voilà, donc si on peut établir une similitude avec ce raisonnement aristotélicien. Donc c'est là le commentaire et le reproche principal qu'en fera Albert Burlou, auquel on va s'intéresser dans quelques temps. Ce qui est étonnant et paradoxal, c'est que Maine de Biran part précisément, comme on l'a vu, d'une volonté de réintroduire l'élément physique ou physiologique au cœur de la doctrine des idéologues. Et c'est pourtant à des considérations inverses, comme nous l'avons vu, que nous conduira le développement ultime de son œuvre. Car si le point de départ dans la critique qu'il adressait aux idéologues était de nature pré-positiviste, la qualité des intuitions à l'œuvre chez l'homme et dans sa recherche ne pouvait résolument y conduire. Maine de Biran part donc, comme on l'a dit, du mouvement à l'œuvre dans la sensation de l'effort, en vient à considérer la conscience concomitante au mouvement, résolvant ainsi le dualisme, qui était encore un obstacle dans la pensée cartésienne, vers une véritable expérience du soi unitaire. Alors, pour ce qui concerne la postérité immédiate de Maine de Biran, il y a quelque chose qui peut nous étonner, enfin, en tous les cas, je partage mon étonnement, c'est que ce ne soit pas une œuvre qui ait connu des prolongements immédiats. Que s'est-il passé? Je vais évoquer le sujet très rapidement pour ne pas m'y attarder. C'est que il y a eu un phénomène, à mon sens, dans l'histoire de la philosophie, d'écrasement de ces penseurs très expérimentaux, notamment par l'œuvre historique d'un certain Victor Cousin, qui fut l'introducteur de l'idéalisme allemand dans l'université française et qui fut en particulier liquidateur des idéologues, liquidateur historique des idéologues. Il a malgré tout tenté une ressaisie de l'œuvre de Maine de Biran pour la réinsérer dans le giron du kantisme qu'il avait introduit en France, mais ça consistait surtout en une dénaturation complète de son œuvre. Alors si Maine de Biran n'eut pas le destin philosophique mérité peut-être, il connaîtra probablement le succès, si l'on peut dire, en psychologie. Donc nous avons dit que nous laisserions de côté le destin historique immédiat du biranisme, qui est hors de notre propos. Biran n'eut point de successeur immédiat, ne fonda pas d'école et resta à l'ombre des grands systèmes qui allaient être menés à orienter une part de la philosophie française pour les décennies et les siècles à venir. Son influence fut probablement plus souterraine que retentissante. Et si l'on résume, ce courant de pensée donna probablement sa racine à la tradition un peu ultérieure de la philosophie réflexive. Et c'est un auteur qui, en tous les cas, connaît de nos jours un regain d'intérêt parmi les phénoménologues. Faisons un bond de 100 ans en avant, vers ce qui nous intéresse immédiatement, pour nous pencher sur la reprise de son œuvre et son commentaire par Albert Burlot. Alors rappelons que Burlot fut l'un des maîtres de la Garandrie, dont il fut l'élève, le disciple, et pourrait-on dire le continuateur de son œuvre dans ses possibles prolongements pédagogiques. Nous avons donc vu que Biran cherchait à analyser les représentations psychiques accompagnant l'acte. C'était avec une certaine anticipation une phénoménologie du mouvement du corps de l'acte qui s'y esquissait. Ce faisant, Biran avait effectué des analyses remontant de l'acte physique aux actes de conscience qui les accompagnent. Burlot approfondira ces analyses. Tentant de faire de l'introspection une démarche rigoureusement scientifique en période de fondation de la psychologie, c'est chez Maine de Biran que Burlot cherche à se fonder. Je vous lirai un extrait de son ouvrage Princeps, Les principes d'une psychologie des tendances, 1938, librairie Félix Alcan, 430 pages. Je cite, édité chez Plon. Je cite, Maine de Biran a cru à la possibilité d'une science positive de l'activité subjective. Il en a tracé les premiers linéaments. Et il a découvert à son usage une méthode dont doit s'inspirer, croyons-nous, en la précisant et en l'adaptant, tout psychologue curieux des fondements de la psychologie. À cette méthode, on peut donner des noms différents. Elle comporte comme démarche essentielle une introspection régressive ou une analyse réflexive, disons plutôt psychoréflexive, pour distinguer l'emploi que Maine de Biran en a fait le plus souvent, sinon toujours, de celui qu'en font des logiciens et des métaphysiciens contemporains. Il poursuit, page 52, « L'expérience du fait primitif est une introspection régressive en profondeur très différente de l'introspection ordinaire. » Nous avons vu que ces deux mouvements, d'ailleurs, étaient à l'œuvre chez Maine de Biran. « Tandis que celle-ci suit la pente de la pensée en travail, aboutit à des images et à des états, qu'elle étale dans l'espace subjectif de l'imagination, celle-là tâche de saisir l'acte à sa source même, et dans cet acte, la force qui s'exerce. C'est à la recherche de la causalité psychique que Maine de Biran s'attelait et que Burlot développera. Toute sa psychologie, on ne développera pas cet aspect, reposera sur la révélation précisément des constituants actifs du psychisme que sont les schèmes et les thèmes. On peut pour cela se reporté à la thèse de doctorat de Lagarandrie. Mais Biran, et c'est le reproche que lui fait Burlot, a manqué de conséquences dans son travail. il ne s'est pas aperçu que sa démarche, que sa méthode, bifurquait. Au lieu de rester sur le terrain de la causalité psychique, il s'est orienté vers les catégories un peu à la manière kantienne. Je cite de nouveau Burlou, « Nous croyons au contraire que la vraie psychologie est à la fois la description et l'explication de telles pensées et que la réflexion, une réflexion orientée dans un certain sens, peut contribuer à en découvrir les causes. » Aussi commence-t-il par déplacer l'effort de Biran, de l'effort musculaire vers l'effort intellectuel. Je cite, « L'expérience privilégiée doit porter d'abord, selon nous, sur l'effort intellectuel plutôt que sur l'effort musculaire. » Alors, je vous lirai un petit exemple d'une mise en œuvre de cette recherche. Donc, c'est dans le Psychologie des tendances, aux pages 55-56. Je veux me souvenir de ce que j'ai fait hier, à 4h de l'après-midi. En fixant mon attention sur ces mots, hier, 4h, je fais surgir l'image d'une personne qui m'a rendu visite à ce moment. Puis, en la portant de nouveau sur cette image, je m'efforce de retrouver ce qui s'est passé depuis l'arrivée de mon visiteur jusqu'à son départ, ses gestes, ses propos, les miens, dans l'ordre où ils se sont produits ou ont été échangés. Je pourrais, par une direction inverse de ma pensée, remonter vers les événements qui ont précédé cette visite. Autre exemple. Je veux me représenter mentalement ce qui se trouve sur la cheminée de ma chambre à coucher et l'image d'une statuette se présentant spontanément à ma conscience. Je cherche à droite où je finis par voir une pendule, puis une photographie. Ici encore, j'aurais pu, par une autre vection de mon effort, apercevoir, à la gauche de la statuette, au-dessus ou au-dessous d'elle, d'autres objets, ou en elle, des détails que je ne m'étais pas représentés au premier moment. Ce quand de tels faits la réflexion découvre de plus primitif, est à la fois action et direction. L'action y est saisie comme dirigée et la direction comme active. Bon. On ne va pas davantage développer, mais on voit bien, c'est d'ailleurs des pages qui sont assez, dans un style finalement, qu'on peut facilement retrouver chez la Carandry. Donc nous avons là une ébauche de ce que sera la psychologie de Burlou. Certaines pages de Burlou sont assez proches des analyses biraniennes, à la fois dans le geste et dans le style. Consacrant une partie de son ouvrage à l'étude de l'acte et du mouvement, de la conscience corrélative au geste, la prise en compte de cette conscience ne sera pas dans un second temps, comme chez Biran, apparaissant comme le prolongement d'une réflexion. La conscience est une donnée première de ses recherches. Il s'attachera à décrire comment le mouvement se tisse avec la conscience et ses représentations, ses déterminations, approfondissant en particulier le rapport entre image et comportement, en tentant d'accéder à, je cite, une expérience immédiate de la causalité psychique, toujours dans le même ouvrage à la page 155, laquelle n'est pas conçue sur la base d'une modélisation extérieure et abstraite sur le modèle de la causalité physique. Il se distingue par là des courants de psychologie à la mode, à la fois du behaviorisme mais aussi des gestaltistes qu'il réfute dans son ouvrage. Fort de tout cela, on aura pris acte de l'importance de cet auteur, probablement dans l'histoire de la psychologie. Le caractère non anecdotique de l'œuvre de ce penseur a pu me surprendre quant au fait qu'il n'a probablement pas eu la postérité méritée. Je m'étais une fois ouvert de cet étonnement à Antoine de la Garandry, qui m'avait alors rapporté cet entretien avec son maître. La Sorbonne lui ayant été proposée, en consécration de ses travaux, Burlou aurait répondu, lui qui enseignait à l'université de Rennes, « Je suis comme les vieux sangliers, je reste là où je suis. » Donc, c'est une hypothèse. L'ancrage provincial breton, en l'occurrence, n'a probablement pas aidé l'œuvre à acquérir davantage de notoriété. Revenons d'une façon plus générale à l'usage de l'introspection dans le cadre de la psychologie. Avec l'introspection méthodique, la psychologie naissante, qui commence en cette fin de 19e et début de 20e siècle à se séparer de la philosophie pour devenir une discipline autonome, possède alors, ou croit posséder, son fondement méthodique, son outil. Cette psychologie, on le sait, a été balayée par le behaviorisme en vertu d'un argument précisément kantien. Alors faisons kantien, c'est-à-dire positiviste. Faisons un rapide retour justement vers la critique positiviste adressée à l'introspection, pour comprendre précisément la critique behavioriste. nous y insistons à double titre. D'abord parce que le behaviorisme nous apparaît davantage comme un avatar, finalement, un des nombreux avatars du positivisme. Et d'autre part parce que le siècle technologique dans lequel nous nous situons nous apparaît aussi précisément comme un autre avatar du positivisme. Je reviens donc à cette critique. On connaît la célèbre formule d'Auguste Comte, fondateur du positivisme, selon laquelle on ne peut pas à la fois marcher dans la rue et se regarder marchant dans la rue. C'est donc la critique principale qu'il adresse à l'introspection. Je ne peux pas à la fois marcher dans la rue et me regarder marcher dans la rue. Je citerai un long passage d'un petit ouvrage de synthèse universitaire consacré au positivisme, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui s'y disent. Comte, on s'en aperçoit, s'en prend en fait à la psychologie introspective, celle qui prétend arriver à une connaissance de soi par soi, par une espèce d'observation intérieure, entre guillemets. La seule psychologie possible serait celle qu'on peut réduire à l'étude objective des fonctions cérébrales, c'est-à-dire à une partie de la physiologie. Ce qui doit attirer ici notre attention est l'argument sur lequel repose la condamnation de l'introspection. Il n'y a de sens, de science, que de ce qui est observable. En récusant de la sorte la scientificité de la méthode introspective, Comte jette en fait les bases de toute psychologie qui pourra se présenter comme science. Une psychologie qui fait l'impasse sur la boîte noire, entre guillemets, de la conscience, et se concentre sur ce qui, dans l'individu humain, est observable, c'est-à-dire ses comportements. Telle fut, au début du XXe siècle, l'ambition fondamentalement positiviste du behaviorisme, de l'américain behavior, comportement de Watson. Refus d'une herméneutique des conduites humaines, d'une interprétation de leurs motifs ou des représentations qui les accompagnent et les provoquent, comme on a pu voir chez Hélène de Miran, chez Burlot. Il s'agira seulement d'observer les comportements en les considérant comme des réponses à des stimuli externes. Nous sommes faits comme des rats. La conscience est une entité non nécessaire. L'amour ou la colère se réduisent à des variations des pulsations cardiaques ou du taux d'adrénaline. Toute psychologie de la vie intérieure, entre guillemets, toute psychologie des profondeurs, n'est qu'un mythe métaphysique. Comme toute autre science humaine, la psychologie ne peut exister dans l'univers positiviste qu'à la manière des faits naturels, c'est-à-dire comme une science de l'extériorité. Cette façon positiviste d'aborder l'ensemble de la question des sciences humaines constitue pour l'épistémologie contemporaine un débat fondamental dont l'enjeu n'est rien moins que le statut du savoir. Le choix positiviste, ou pour reprendre la terminologie critique de Husserl, objectiviste, contre le choix herméneutique. Autrement dit, la tradition qui de Comte à Carnap voit dans les sciences physiques et naturelles le modèle unificateur du savoir objectif versus celle qui, de Husserl à Gadamer, voit dans la science objective elle-même le fruit d'un sujet humain et refuse de rendre compte du savoir, fût-il celui de la physique, en des termes oublieux, j'insiste sur cette dernière formulation, en des termes oubliés du travail de la subjectivité et du sens à l'œuvre dans toute connaissance. Alors j'ai insisté dans ma lecture sur la notion de choix, parce que ce sont les termes qui sont employés, pardon pour cette longue citation, mais je n'ai rien à y rajouter, et c'est dit probablement de la meilleure manière que ce que j'aurais pu dire. J'insisterai justement sur le fait que, pour ce qui nous concerne, ce choix dont il est question est lui-même un choix herméneutique. Il s'agit tout simplement du regard que nous souhaitons porter aujourd'hui sur la personne humaine. Alors j'ai découvert en préparant cette conférence de manière surprenante que Maine de Biran avait déjà anticipé cette critique, puisqu'elle figurait déjà chez certains penseurs de son temps, à qui il avait répondu, je pense particulier à, dans son dialogue avec mon Condillac Serre, mais avec Malebranche, que Malebranche avait fourni des critiques assez similaires à celles que le positivisme a pu développer un siècle après, et qu'il y avait répondu d'ailleurs d'une manière relativement similaire. Alors, je voudrais quand même citer un petit extrait qui m'a amusé, mais je ne le commenterai pas, je vous laisserai méditer dessus. C'est un extrait de l'ouvrage de Watson, fondateur du behaviorisme, dans son ouvrage « Behaviorism ». la traduction française, c'est, j'ai trouvé dans un ouvrage de Robert Castel sur un sujet qui n'a. Un ouvrage qu'il appelle le psychanalysme, donc qui n'a rien à voir, mais il cite Watson. Watson, fondateur du behaviorisme, qui s'exprime en ces termes. L'intérêt que porte le behavioriste aux actions de l'homme est plus que l'intérêt du spectateur. Ce qu'il veut, c'est contrôler les réactions humaines, tout comme les physiciens veulent contrôler et manipuler quelque autre phénomène naturel. C'est la tâche de la psychologie du comportement que d'être capable de prévoir et de contrôler l'activité humaine. Pour ce faire, elle doit recueillir les données scientifiques à l'aide des méthodes expérimentales. Voilà, je vous laisse méditer sur ces prophétiques paroles. J'en reviendrai rapidement, mais je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites. Et sur la garanderie, précisément, j'ai intitulé cette petite partie de l'introspection régressive à l'introspection idétique, mais il y a certains aspects qui ont déjà été développés ce matin. Et je rappelle au demeurant qu'il y a beaucoup de choses qui sont développées. Je suggère de relire Défense et illustration de l'introspection, principalement sur la partie historique, les chapitres 2 à 3. On pourra retrouver, d'ailleurs, ce texte aurait pu tout à fait tenir lieu de conférence à ma place. Vous retrouverez beaucoup d'aspects. Dans les chapitres 2 à 3 sont des chapitres historiques et on commence à passer à la partie, si je puis dire, technique, entre guillemets, à partir du chapitre 4. Donc je rappelle que la Garanderie a été un disciple d'Albert Burlot dont il a suivi les cours à l'université de Rennes, la faculté des lettres de Rennes, et comme il a eu l'occasion de le dire, l'introspection c'est Maine de Biran corrigé par Burlot. Je vais conclure rapidement. Je me contenterai de rappeler que la Garanderie fut fidèle toute sa vie à la méthode introspective qu'il développa et enrichit de l'apport de la phénoménologie, proposant en particulier effectivement le terme d'introspection idétique pour qualifier sa démarche, que cette fidélité se fit contre tous les courants et toutes les modes de son temps. Et il me confia en particulier un jour qu'on lui avait une fois glissé le mot suivant, alors si certains ont plus de précisions sur cette anecdote, mais on lui aurait dit « Si vous voulez avoir du succès, abandonnez l'introspection. » Je vous remercie.